Rencontre avec Loïc Barrière sur Radio Orient.
L'invité de rencontre est Abdelkarim Arouni, président de l'Assemblée consultative du parti Ennahda, ancien ministre tunisien. Bonjour.
Bonjour et félicitations à la Radio Orient et aussi à tous nos compatriotes tunisiens et nos frères algériens, marocains, tous les arabes, les musulmans et les français de toutes sources.
Merci Abdelkarim Arouni. On va parler de la Tunisie dans un instant. Vous avez mentionné les Algériens. Quel regard portez-vous sur la situation en Algérie ?
D'abord, il faut saluer l'Algérie pour sa position envers la Tunisie, la stabilité de la Tunisie, la démocratie en Tunisie. Nous avons confiance dans le peuple algérien et nous sommes sûrs que l'Algérie va trouver la solution, la bonne solution, dans l'intérêt d'Algérie, sans ingérence de nulle part.
Sans ingérence de nulle part, mais j'imagine qu'en tant que Tunisien, vous regardez ce qui se passe en Algérie avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous considérez que ce qui est en train de se passer ressemble à la révolution du jasmin ?
Il faut faire attention. La révolution tunisienne n'est pas importée, n'est pas à exporter. Chaque peuple dans ce monde trouvera sa voie vers la démocratie et on doit respecter tous les peuples, leurs choix et leurs décisions. Donc, ce qui se passe en Algérie n'a rien à voir avec le modèle tunisien, dans le sens que chaque peuple, chaque pays trouvera la solution à ses problèmes. Les Tunisiens ont trouvé des solutions tunisiennes aux problèmes tunisiens et ne donnent pas de leçons à quiconque.
Alors, il y a 2 semaines, Abdelkarim Arouni, un terroriste d'extrême droite, a assassiné 50 fidèles musulmans dans 2 mosquées en Nouvelle-Zélande. Comment cet attentat a-t-il été ressenti en Tunisie ? Et qu'avez-vous pensé de la réaction des autorités néo-zélandaises ?
Une autre fois, on prouve que le terrorisme n'a pas de religion, n'a pas de nationalité. Le terrorisme, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime qui divise l'humanité et qui répand la haine, la rancune, la division et mène aux guerres et aux massacres. L'humanité a connu beaucoup de terrorisme et a payé le prix très cher. Il faut être conscient partout que le monde doit s'unir contre le terrorisme et être au-dessus des petits calculs. Et nous saluons le peuple et la direction à New Zealand parce qu'ils ont donné une leçon de civisme, d'humanité et ont pris une position historique très forte contre le terrorisme pour défendre leur pays, leurs valeurs et défendre l'humanité. Nous sommes tous avec le peuple néo-zélandais, avec sa direction et son chef de gouvernement, cette femme exceptionnelle qu'on respecte et que le monde respecte. Tous ceux qui combattent le terrorisme doivent être respectés. Tous ceux qui pratiquent le terrorisme sont à rejeter sans exception, sans voir qui est l'agresseur, le criminel et qui est la victime. C'est le combat de l'humanité et pour Ennahda, on a réussi en Tunisie à vaincre le terrorisme. On a vaincu Daesh au sud tunisien et c'était le début de la fin de Daesh après dans l'est, c'est-à-dire la zone arabe à partir de la Libye, de l'Irak et de la Syrie. Donc le combat contre le terrorisme, c'est le combat contre la haine, contre l'extrémisme, contre la division et c'est une défense du droit à la vie, du droit à la différence et du droit à la paix entre tous les peuples et tous les humains.
Vous considérez qu'il faut prendre en compte avec plus d'importance la haine contre les musulmans qui se développe notamment dans certains pays occidentaux. On voit que les partis nationalistes en Europe sont en train de progresser. Et souvent, ce sont les musulmans qui sont visés.
La haine contre les musulmans, ou contre l'islam, ou contre les immigrés de toute religion ou de toute nationalité, c'est pas une solution. C'est un problème. Ceux qui vont dans cette voie de l'extrémisme de droite ou de gauche menacent leur pays, menacent leur population, menacent leur avenir et l'avenir de leur peuple. Donc répandre la haine, c'est qu'on va payer le prix avant les autres, parce que la haine, c'est comme le feu. Quand on se rapproche, on risque d'être brûlé. Ça veut dire qu'il faut faire attention. En Europe, partout dans l'Est et l'Ouest, il faut combattre tous les genres d'extrémisme, d'appel à la haine, parce que ce feu va brûler tout le monde et va faire l'affaire des terroristes.
Certains considèrent que votre parti, qui est un parti islamiste, est un parti extrémiste. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
C'est de la propagande. Et malheureusement, ça veut dire que nous devons faire plus de communication. Ennahda, c'est un modèle de parti civil, démocratique, qui a réussi à donner un modèle de cohabitation entre l'islam et la démocratie. C'est un parti qui a participé à une révolution sans haine, sans vengeance, sans sang qui coule dans les rues, ou des exécutions partout. C'est une révolution pacifique. Et c'était un processus démocratique. Et Nahda, c'est la première force politique en Tunisie. Et c'est un signe de stabilité de la Tunisie. Elle est ouverte à tous les partis laïcs et autres pour le consensus. Elle est ouverte pour tout ce qui est progrès pour l'humanité. C'est un modèle pour contrer l'image que donnent quelques-uns de l'islam, qu'il est lié au terrorisme ou lié à la dictature. L'islam, c'est une religion noble contre la violence, contre le terrorisme. Et nous sommes un parti qui se réfère à ces valeurs de l'islam. Et la preuve que la Tunisie va vers la stabilité, va vers la démocratie, tout en respectant les diversités dans notre société. Chacun a le droit de s'exprimer et c'est les élections libres, le scrutin qui décide qui va diriger la Tunisie dans tous les cas.
Le président turc Erdogan est-il un modèle pour vous ?
Le président turc, c'est le président des Turcs, élu par les Turcs. C'est un modèle. Il faut avouer que la Turquie a fait un succès économique, a dépassé l'ère des putsch militaires. Elle avance dans la voie de la démocratie, mais il reste au peuple turc de choisir sa direction, ses dirigeants, dans la transparence et la démocratie.
Il y a des opposants politiques emprisonnés en Turquie.
Nous, comme parti, on défend les libertés partout. En Turquie, en Europe, dans le monde arabe, c'est une question de principe. On ne peut pas être démocrate avec des gens et ne pas être avec les autres. Malheureusement, nous, dans le monde arabe, il y a ceux qui se présentent démocrates, mais qui soutiennent des régimes terroristes, des régimes dictateurs. Donc, ou bien on est démocrate avec tout le monde, ou bien on défend la liberté de tout le monde, ou bien on va être se présenter comme démocrate, mais on ne l'est pas vraiment. Nous, à Ennahda, nous défendons la liberté de l'homme, la liberté des peuples, la démocratie pour tout le monde, sans exception.
Abdelkarim Harouni, je rappelle que vous êtes président de l'Assemblée consultative du parti Ennahda. Vous êtes de passage à Paris. À quelques mois de l'élection présidentielle et des législatives en Tunisie, quel bilan faites-vous de l'action de votre parti au sein de la coalition au pouvoir ? Quelles ont été vos réussites et quels échecs regrettez-vous ?
D'abord, il faut signaler que Ennahda, c'est le dénominateur commun entre les gouvernements du premier gouvernement après la révolution et les élections libres de 2011 jusqu'au gouvernement actuel. Ça veut dire que Nahda a réussi à travailler, à coopérer avec les autres, les différents partie de différentes familles politiques. C'est une réussite pour Ennahda et ça veut dire que nous sommes ouverts à travailler avec les Tunisiens, les partis tunisiens, suivant un programme national et des réformes réelles pour améliorer la situation de nos jeunes qui attendent le travail et nos régions qui attendent le développement et notre administration et notre État qui attend beaucoup de réformes. Donc, nous sommes fiers que réconciliation entre l'État et Ennahda. Parce que l'État a refusé Ennahda, et Ennahda a été anti-système. Donc, après la révolution, avec la démocratie, Ennahda fait partie de l'État, et fait partie du pouvoir, et a des propositions, et a présenté des compétences. Mais malheureusement, il faut voir que nous sommes dans une période transitoire, difficile, on apprend la démocratie, on apprend à former des partis, il y a des partis avec lesquels on a travaillé dans les gouvernements qui sont passés par des crises, essentiellement de Tunis qui a été le premier dans les élections de 2014. La crise de Nidia Tunis a influé l'efficacité du gouvernement, la réalisation du programme du gouvernement. Espérons que ce parti sorte de cette crise avant les élections. Il y a d'autres formations nouvelles qui apparaissent dans l'échiquier politique. Il y a des partis qui regressent. Donc, la question politique en Tunisie, dans cette période transitoire, n'est pas finale. Et on espère, dans les élections prochaines, avoir une image claire des forces qui vont faire la coalition pour diriger la Tunisie et entrer dans les réformes et réaliser les aspirations des Tunisiens et des jeunes essentiellement. On a réalisé des acquis. L'essentiel, c'est que l'État ne s'est pas écroulé, comme le cas des autres révolutions. On a évité la guerre civile, la confrontation armée, la violence entre les Tunisiens. On a eu une constitution avec un consensus large.
Vous étiez membre de l'Assemblée constituante.
Voilà, et on a participé à cette constitution progressiste qui défend la répartition du pouvoir pour ne pas revenir à la dictature et le pouvoir de la personne ou de la famille. On a réalisé une certaine stabilité dans le pouvoir, mais il faut dire, il faut avouer aussi que la réussite politique qui nous a amené à faire 4 élections pendant 8 années et la réussite sécuritaire qui a permis de vaincre le terrorisme par notre armée, notre sécurité et notre peuple, mais au niveau économique, au niveau social, on a essayé d'améliorer les chiffres, on a essayé de minimiser la souffrance des classes moyennes et pauvres, mais le défi devant la Tunisie, dans un contexte régional et mondial difficile, c'est de relever le défi économique et social. Par la réussite des élections de 2019, inshallah, avant la fin d'année, et par la formation d'un gouvernement fort, cohérent et avec un programme national bien détaillé, nous sommes confiants qu'on va aussi réussir la transition économique et sociale.
Abdelkarim Harouni, le Premier ministre Youssef Chahed, fait-il un bon travail à la tête du gouvernement? Il est critiqué par de nombreux partis politiques.
Monsieur Chahed travaille dans des conditions difficiles parce qu'il y a un problème dans son parti. Il y a une partie dans son parti qui veut qu'il parte. C'est un problème puisque ce parti a le maximum, a la majorité des ministres et a proposé la majorité des gouverneurs et des dirigeants de l'administration. Donc, il n'a pas le soutien de son parti.
Il a le soutien d'Ennahda.
Il a le soutien d'Ennahda parce qu'il est chef du gouvernement. Parce que Ennahda a défendu la stabilité du gouvernement. Parce que Ennahda n'a pas accepté de faire tomber un gouvernement avant une année des élections et passer 2-3 mois à discuter et à négocier un nouveau gouvernement qui ne va pas changer la situation, surtout économique et sociale. Donc Ennahda a défendu l'État, a défendu le gouvernement et ça veut dire qu'elle a défendu la continuité de M. Chahed à la tête de ce gouvernement. Mais maintenant, on a des négociations avec M. Chahed pour établir un programme et participer ensemble dans la réussite de la Tunisie pour qu'elle arrive aux élections dans les meilleures conditions, améliorer les performances économiques et sociales au maximum dans cette courte période, mais surtout, il faut penser à la Tunisie après 2019.
Alors, est-ce que vous nous confirmez, Abdelkarim Harouni, que le Premier ministre Youssef Chahed est le candidat soutenu par le parti Ennahda pour la présidentielle?
Il faut être clair à ce sujet. Pour Ennahda, la seule institution qui peut décider et peut déclarer qui est le candidat de Nahda, c'est Majeshwara, le conseil des Shwara.
Donc vous êtes
qui est
le président.
Dont, il est à mon honneur d'être son président. C'est le parlement de Nahda. Nous sommes en Tunisie dans un régime parlementaire et Nahda a un grand dirigeant, M. Raj El-Ghannouchi, et un grand leader national, mais aussi elle a un grand et un fort un parlement. Cette question par la loi interne du mouvement se décide au niveau du conseil de la Shura. Le conseil va se réunir mi-avril, Inch'Allah, et on va débattre de ce sujet. On a demandé au bureau exécutif de présenter une étude à ce niveau, les différents scénarios. Dans tous les cas, le choix de Nahda va être basé sur l'intérêt de la Tunisie, l'intérêt de faire réussir la transition démocratique en Tunisie. Et Ennahda, en 2013, a accepté de quitter un gouvernement dans le but d'avoir une constitution et revenir aux élections libres. Et on a avancé. Ennahda est de retour au gouvernement et c'est la première force politique dans le parlement et dans la scène politique. Donc pour Ennahda, la question c'est pas des questions de poste. On n'a pas une tendance à dominer le pouvoir comme ça a été le cas pour Nidia Tounes qui a pris les trois présidences. Nous on essaie de étudier l'intérêt de la Tunisie. Et dans cet intérêt, ça va être la direction de Nahda. Autre déclaration, ce n'est pas des positions officielles qui peuvent être la position officielle de Nahda.
Une question de société qui fait souvent la une de l'actualité, le projet de loi sur l'égalité dans l'héritage entre les femmes et les hommes. Quelle est la position de Nahda?
Nous sommes dans un pays démocratique. Nous avons un parlement. Le président a le droit de proposer des projets. Pour Ennahda, on a dit que tout projet qui est en contradiction avec la Constitution, avec l'État civil tunisien qui respecte la volonté du peuple tunisien, on va s'opposer à tout ce qui est contre la Constitution et contre les acquis de la femme et la stabilité de la famille. Mais nous sommes ouverts pour la discussion et pour atteindre un niveau plus haut de l'égalité entre l'homme et la femme en Tunisie, parce que la femme tunisienne a des acquis au niveau de la loi, mais au niveau de la réalité, on doit encore militer pour que la femme ait son héritage par la loi actuelle et ait l'égalité dans l'administration avec l'homme, avec l'égalité de compétences, l'égalité de chances, et qu'elle soit bien placée dans l'État, dans les partis, dans les organisations de la société civile. Donc le combat de la femme et le combat de l'homme avec la femme pour plus d'égalité, ça continue en Tunisie. Et la Ennahda va dans le sens de plus d'égalité entre la femme et l'homme dans la réalité.
Dernière question, très rapidement, il nous reste une minute. Abdelkarim Harouni, la Tunisie accueille le sommet arabe. La Tunisie ne veut pas donner de leçons au reste du monde. Pour autant, avez-vous le sentiment qu'en raison de son histoire, la Tunisie joue un rôle particulier, un rôle de précurseur?
Certainement, la Tunisie, c'est un pays d'accueil. C'est un pays qui a 3000 ans d'histoire, qui a les traditions de l'État, qui connaît une transition démocratique, qui peut être honorée par le titre de la première démocratie dans le monde arabe. Donc, nous voulons que en Tunisie, tous les Arabes se réunissent. On ne veut pas d'absents. Parce que l'union entre les Arabes, c'est une force, la division, c'est une faiblesse. D'autre part, les invités de la Tunisie comprennent qu'ils visitent un pays démocratique et que la solution dans le monde arabe, c'est la démocratie. Et c'est le, peut-être le modèle tunisien, le monde arabe, l'avenir du monde arabe, ce n'est pas dans les putschs, dans les guerres civiles, dans les milices armées, ou dans l'intervention étrangère, ou dans les divisions religieuses ou ethniques ou régionales. La Tunisie présente un modèle positif et accueille tous les Arabes. Et on espère que dans tous les pays arabes, on respecte le choix des peuples, on avance vers la démocratie et on reste parmi les pays du monde qui ont choisi la liberté et la dignité du citoyen et des peuples.
Merci Abdelkarim Harouni d'avoir été l'invité de rencontre. Je rappelle que vous êtes le président de l'Assemblée consultative du parti ENADA en Tunisie. Merci.
Merci pour cette invitation.